dont nous abordons aujourd'hui le troisième message à thème. Or, nous avons vu dans les précédents, alors Dieu est plus grand que sa création, la notion de transcendance. Nous avons vu aussi Dieu s'engage dans sa création, la notion d'immanence. Nous avons aussi appris que nous sommes des Monsieur Jourdain de la théologie. C'est-à-dire que lorsque nous étudions la Bible, lorsque nous prions, ou lorsque nous ferons le retour sur ce message à thème mercredi ou jeudi prochain, eh bien, nous faisons de la théologie et peut-être sans le savoir. Et aujourd'hui, je vous propose d'aborder cette question. Alors, comment puis-je voir Dieu avec mon regard humain qui est limité? Si Dieu est esprit, comme je l'apprends en lisant l'Évangile, eh bien, avec mes yeux humains, comment puis-je le voir? D'autant plus que Dieu a dit à Moïse, « Nul ne peut me voir et vivre. » Alors, j'ai donc besoin que Dieu lève un coin de voile, c'est-à-dire qu'il se révèle à chacun d'entre nous. J'ai besoin de cela, d'une révélation, pour que je puisse le voir. Et donc, le titre de ce message que je vous propose aujourd'hui, « Dieu se révèle aux êtres humains limités que nous sommes ». Et nous aborderons ce matin trois formes de révélation. Nous allons les découvrir un peu au fil de l'eau. Donc la première, la révélation dite générale, elle est qualifiée de générale parce que chaque être humain, chrétien ou non, peut observer certains aspects de Dieu en contemplant ce qu'il a fait. Et selon l'expression d'un enseignant de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, Paul Wells, la révélation générale est une théologie naturelle. Vous voyez, nous ne quittons pas la théologie. Donc Dieu se révèle dans sa création. Nous en avons un exemple ici, nous avons un fleuve et une île au milieu. Et je vous propose de cheminer avec l'auteur du psaume 104 qui contemple la création, qui nous invite à faire de même et reconnaître que Dieu est l'auteur de la création. Alors, quelques exemples retiré de ce psaume. Je vous encourage chez vous à lire ce psaume en entier. Alors, par exemple, « Tu as déployé le ciel comme une tente. » Ensuite, « Tu prends les vents comme messager. » Alors, en voyant l'état de la mer le jour où la photo a été prise, j'ai compris que les vents étaient de très fidèles messagers. Tu as fixé la terre sur ses bases. Tu l'avais couverte de l'océan comme d'un manteau. Tu conduis l'eau de source dans les ruisseaux et elle se faufile ou elle cascade, là ici, entre les montagnes. du haut du ciel, tu fais pleuvoir sur les montagnes. Tous ces êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Et nous remarquons que chaque fois, ces versets, les verbes sont conjugués à la deuxième personne, c'est-à-dire « tu ». L'auteur parle à Dieu. Et donc nous avons des affirmations qui nous protègent de deux erreurs. Ce que nous avons vu la dernière fois, ces affirmations nous évitent de confondre Dieu avec sa création. Le danger d'adorer la création au lieu de Dieu, dire « la création c'est Dieu », nous sommes protégés de cela en lisant ces versets. Et une autre erreur, nous l'avons entendu ce matin, c'est que tout serait le fruit du hasard. Eh bien non, la création ce n'est pas le fruit du hasard. Jean Calvin écrivait au XVIe siècle, dans son livre « L'institution de la religion chrétienne », « Il est évident, en effet, que pour soutenir cette machine et masse infinie que sont le ciel et la terre, une grande puissance est indispensable ». Affirmation qui concorde avec l'enseignement de Paul aux Romains, et Romains 1, verset 20. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Alors nous avons vu quelques exemples des œuvres de Dieu, il y en a bien d'autres. Dieu se révèle aussi dans l'histoire. Alors je vous propose un exemple dans l'histoire biblique d'Israël. Le royaume de Juda est envahi par l'armée assyrienne. Jérusalem, la capitale, est assiégée. Ce roi assyrien, ou plutôt son général en chef, le Rabshaké, se moque des Israélites en disant « Mon armée a vaincu les dieux de toutes les nations ». Mais voilà la réponse que Sennachérib reçoit de Dieu par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Eh bien, Sennachérib, ne le sais-tu pas? Depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Depuis un lointain passé, j'en ai formé le plan, et maintenant, je les réalise. Ésaïe 37, verset 26. Là, je l'ai lu dans la version français courant. Et plus tard, l'ange de l'Éternel tuera 185 000 hommes de l'armée assyrienne. Le roi assyrien retournera dans sa capitale, Ninive, où il sera assassiné par ses deux fils. Voilà un exemple comment Dieu contrôle l'histoire. Un autre exemple beaucoup plus récent, de l'histoire récente de l'Europe, la chute du mur de Berlin. Humainement parlant, cela a été impossible. Vous vous souvenez peut-être, il y avait deux murs avec No Man's Land au milieu, truffés d'explosifs, de grenades et d'autres choses. Plusieurs miradors, des tourelles avec des soldats en armes qui veillaient. Donc, humainement, c'était impossible de franchir ce mur, sauf aux points de passage, comme Checkpoint Charlie, par exemple. Et pourtant, il y a eu pendant 30 ans des gens qui priaient régulièrement, avec persévérance, et un beau jour, à l'automne 1989, eh bien, ce mur de Berlin est tombé. Dieu aussi avait agi pour que ce mur tombe. Dieu se révèle aussi dans l'être humain, être humain créé à l'image de Dieu, un être humain qui possède quelque chose que les animaux ne possèdent pas, c'est-à-dire la pensée de l'éternité. Alors que faisons-nous de cette pensée de l'éternité? Parfois certains nient complètement cela, d'autres disent « on verra plus tard », d'autres pensent à leur éternité dès maintenant, mais en tout cas, quelle que soit l'attitude que les êtres humains adoptent face à cette pensée, eh bien, elle est là, parfois elle est présente, et parfois elle peut déranger aussi. L'être humain aussi a en lui-même un témoin intérieur qui s'appelle la conscience. Cette conscience qui dit si j'ai agi bien ou mal. Et il nous appartient aussi, nous sommes responsables d'écouter sa voix ou non. Paul l'enseigne à Timothée. Alors, 1 Timothée 1, verset 19. Garde la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ont refusé d'écouter leur conscience et ont causé ainsi le naufrage de leur foi. Autrement dit, ils n'ont pas écouté leur conscience, mais leur foi a sombré comme le Titanic. Dans ce type de révélation, cette révélation générale, bon, c'est déjà, nous l'avons compris, une invitation à se remettre en question pour chacun d'entre nous. Alors, un petit exemple personnel, c'était à mes débuts en matière de pêche à la mouche artificielle. Je pêchais un soir une rivière des Pyrénées, ariégeoise. Alors, j'avais une mouche efficace. J'avais eu plusieurs touches, ratées ou réussies. Mais manque de chance, je l'accroche à de la végétation sous l'eau. Je casse. Je mets la même. J'attache la même mouche, enfin la même, à mes yeux. Elles étaient exactement semblables toutes les deux. Je lance un refus. Je n'ai plus eu une touche avec cette deuxième mouche qui était semblable à mes yeux à la première. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça voulait dire que la truite, créature de Dieu, a été capable de voir un infime détail, une toute petite différence qui a échappé à mon regard, détail qui a éveillé sa méfiance. Eh bien, ce soir-là, je peux vous dire, j'ai été sérieusement secoué. Je me suis longtemps posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il qu'une simple truite a été capable de voir cela? Et j'ai dû admettre que sans Dieu, je n'avais pas d'explication. Alors, révélation qui invite à se remettre en question, mais peut-être insuffisante par elle-même, parce qu'elle est brouillée. Voyez, vous vous promenez en montagne, votre téléphone portable est allumé, ça sonne, vous voyez le numéro s'afficher, donc vous savez qui vous parle, qui cherche à vous joindre. vous décrochez, mais vous n'entendez pas ce que dit la personne. Vous ne comprenez pas, parce qu'il n'y a pas assez de réseau et la communication est brouillée. Bien voilà, c'est la même chose. La révélation générale peut être brouillée par le péché qui est en nous. Ce péché qui met une séparation entre Dieu et nous-mêmes. Ce qui explique le besoin pour nous d'une autre révélation. Juste une minute. La révélation spéciale, la Bible, parole de Dieu, et nous voyons bien ici, les deux mains, Dieu qui vient vers nous par l'intermédiaire de cette révélation spéciale. La Bible, je devrais dire la bibliothèque, parce que la Bible est une bibliothèque composée de 66 livres, écrits sur une période de 2000 ans environ. Or, il y a une autre erreur dont nous devons nous garder. Les auteurs bibliques n'étaient pas des secrétaires qui ont écrit, qui ont sténographié sous la dictée, en écoutant Dieu leur parler. Alors ce n'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Dieu a tenu compte de leur personnalité, il a tenu compte de leurs sentiments, du contexte dans lequel ils ont vécu, et il leur a soufflé, puisque le mot esprit veut dire souffle, il leur a soufflé ce qu'ils devaient écrire. Bien, par exemple, Moïse n'a pas du tout écrit comme Paul, et pourtant les deux auteurs parlent de Dieu et nous lèvent un coin de voile tous les deux. Il y a un verset que nous avons vu la dernière fois. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. 2 Timothée 3, verset 16. Alors toute écriture, ce qui veut dire des premiers mots au commencement jusqu'à la prière finale, de l'Apocalypse. Alors, inspiré, en grec, c'est théopneustos, ce qui veut dire alors toute l'écriture est souffle de Dieu. Toute l'écriture est soufflée par Dieu. Cela aussi concorde avec l'enseignement de Pierre, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 21. Or, cette révélation bénéficie de preuves. Alors, nous parlons de preuves externes à la Bible. Alors, par exemple, l'archéologie, avec un témoignage bien connu, celui de Ninive. Vous savez que Voltaire s'était moqué de la Bible en disant « on n'a jamais retrouvé Ninive, Ninive n'a jamais existé, car il est impossible selon lui qu'une ville aussi immense disparaisse sans laisser de traces. » Mais vers le milieu du XIXe siècle, un Anglais a retrouvé le site de Ninive. Et à partir de ce moment, les explorations qui ont été faites ont entièrement confirmé les données de la Bible. Donc, autrement dit, Voltaire a perdu une occasion de se taire. Une autre preuve externe aussi peut être la persécution. Parce que je suis en train de lire le livre de Michel Varton, comme le Père m'a envoyé, où il témoigne que l'Église persécutée a été une école pour son auteur, Et une constante qui m'apparaît, c'est celle-ci, c'est le nombre de pays qui refusent de laisser entrer la Bible sur leur territoire. Et ceux qui cherchent à introduire la Bible, les colporteurs aujourd'hui, prennent des risques parfois très importants. Alors c'est un signe qui indique que la Bible, parole de Dieu, c'est la vérité, et même la vérité qui dérange. C'est aussi une preuve. Mais si cela ne suffit pas, nous avons des preuves dites internes, c'est-à-dire que la Bible confirme par elle-même qu'elle est fiable. Alors je passe ici directement au plus important, le summum de la révélation, le sommet de cette révélation qui est Jésus-Christ. Vous voyez par exemple la révélation de Dieu, c'est par exemple la chaîne des Pyrénées. Vous voyez, Jésus-Christ, par exemple, la révélation de Jésus-Christ, c'est le massif qui domine tout, le pic d'Aneto, et la croix et la résurrection de Jésus-Christ, c'est ce pic d'Aneto au beau milieu du massif de la Maladeta, vous voyez. C'est le point culminant avec ses 3400 et quelques mètres, pour donner une idée. Alors nous lisons dans l'Évangile selon Jean au premier chapitre, alors ce sont des versets bien connus. Au commencement de toute chose, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Ensuite, plus loin dans ce même chapitre, celui qui est la parole est devenu un homme. Et il a vécu parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons vu sa gloire, la gloire que le Fils unique reçoit du Père. Et encore un peu plus loin, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Autrement dit, nous apprenons que cette parole est devenue un être humain en chair et en os, exactement comme nous. Et nous apprenons, dans ce même chapitre, que cet être humain, c'est Jésus, la parole venue vers nous. Nous voyons ici la main qui est tendue, comme un symbole sur cette photo. Parce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Jésus qui est mort et qui est ressuscité, nous le voyons sur cette photo, ici. Or, ce que nous apprenons en lisant les évangiles sur Jésus, nous sommes encouragés à lire les évangiles, n'est-ce pas ? Je vous propose trois choses essentielles que nous apprenons sur Jésus, en lisant les évangiles. D'abord, Jésus a eu un grand respect pour l'Ancien Testament lorsqu'il était sur cette terre. Nous trouvons en effet plusieurs fois dans les évangiles l'expression « il est écrit que », par exemple, Jésus a cité trois fois l'Écriture lorsqu'il repoussait les assauts de Satan dans le désert, et par là même, il reconnaît l'autorité de l'Écriture sainte. Il reconnaît aussi l'inspiration divine des auteurs bibliques. Par exemple, lorsqu'il est opposé au temple, aux chefs religieux, qui lui ont posé toutes sortes de questions tordues, il finit par leur poser une question, mais David, lui-même, animé par l'Esprit Saint, notons cela, David, animé par l'Esprit Saint, a dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et ensuite, il leur pose la question, mais si David le reconnaît comme Seigneur, comment peut-il être son fils ? Et là, les chefs religieux ont une bouche cousue. Vous vous souvenez de cet exemple-là ? Ensuite, nous apprenons aussi que l'autorité donnée aux disciples pour prêcher en son nom par Jésus. Jésus a donné son stempel aux écrits du Nouveau Testament, si vous me permettez de le dire ainsi. Or, qu'est-ce que nous en retirons pour nous-mêmes ? Eh bien, dans toute la Bible, du début jusqu'à la fin, nous retirons de tout cela que c'est Jésus qui parle. Jésus, parole de Dieu. Alors, le four solaire d'Odeio, dans les Pyrénées-Orientales, c'est près de Font-Romeu, il se compose de plusieurs miroirs orientables et chaque miroir oriente les rayons du soleil vers un point unique, c'est-à-dire le centre du four. Autrement dit, toute l'énergie solaire reflétée par ces rayons est orientée vers ce four, et ce qui permet d'atteindre des températures de 3500 degrés. Dans ce four. Donc vous voyez la puissance que cela peut avoir. Et bien de même, les 66 livres de la Bible convergent vers Jésus. Ces 66 livres orientent soit notre regard, soit nos pensées vers lui et vers le sommet de la révélation, sa mort à la croix et sa résurrection. Révélation qui est faite pour notre salut. Bon, nous comprenons bien aussi qu'un acte de foi de notre part est nécessaire, puisqu'il nous appartient d'abord d'accepter Jésus comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, pour que tout cela ne reste pas théorique, mais que cela devienne concret, que cette parole de Dieu nous structure, nous donne une charpente pour que nous devenions des hommes et des femmes à l'image de son fils. Un jour, M. François Gonin, celui qui a été à Blaye un peu mon père spirituel, me racontait qu'il avait été pris à partie par un grincheux qui lui a demandé « Mais enfin, monsieur, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui de la science, vous croyez encore à ce que dit la Bible ? Vous croyez à ces sornettes ?» Et M. Gonin lui a répondu « J'ai la naïveté de croire que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. » Ça a été la fin de la discussion, il m'a raconté. Donc pour nous, pour être concrets, c'est un chemin en quatre étapes qui nous est proposé pour que cette parole de Dieu nous donne la charpente nécessaire. D'abord, la première étape, c'est reconnaître Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Tout par-delà, c'est le fondement. Ensuite, reconnaître l'autorité de Jésus sur mes croyances, sur mes préjugés. Ce sera l'occasion de faire le tri entre ce qui est juste et ce qui est faux. La troisième étape, reconnaître comme Jésus, en suivant son exemple, que l'Ancien Testament est vrai et totalement digne de confiance. Et pour terminer, reconnaître le Nouveau Testament comme parole de Christ, et cela nous conduit à reconnaître, bien entendu, que toute la Bible est parole de Dieu et que c'est Jésus qui parle. Donc je reprends ces quatre étapes pour vous permettre de noter. donc reconnaître Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur, de reconnaître l'autorité de Jésus sur mes croyances ou mes préjugés, reconnaître comme Jésus que l'Ancien Testament est vrai et digne de confiance, et pour terminer, reconnaître le Nouveau Testament comme parole de Christ. C'est un chemin concret qui nous est proposé. Mais pour cela, pour que nous nous mettions en route, peut-être avons-nous besoin que Dieu nous touche personnellement. Vous voyez par exemple cet homme ici, qui considère la Bible comme un livre d'histoire. Qu'est-ce qui va peut-être le motiver ? Qu'est-ce qui va faire tilt pour qu'il se mette en marche et il suive ces quatre étapes que nous venons de décrire. Il y a besoin de ce que nous pouvons appeler la révélation très spéciale. Voyez, il voulait dépoussiérer la Bible, et c'est lui en fait qui a besoin d'être dépoussiéré. Donc la révélation très spéciale. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait tilt chez moi pour que je fasse le pas de foi décisif? Et cela, chers frères et sœurs, est différent pour chacun de nous. Alors à titre personnel, alors c'était un moment où j'étais au fond du trou, c'était à Dreux, en Eure-et-Loir, bien, une jeune fille de 4 ans est venue vers moi. Elle m'a tendu un papier, c'était écrit dessus « Vous êtes invité à découvrir le monde merveilleux de la Bible ». Alors le grand raisonnement intellectuel que j'ai tenu, c'était celui-ci « Tiens, pour une fois que je suis invité, je serais bien bête de ne pas y aller ». Donc j'y suis allé, je me suis rendu à cette expo Bible. J'ai pu confier ma souffrance qui vraiment débordait à un pasteur qui m'a écouté. Il m'a invité à un culte. Eh bien, pour moi, tout a commencé là. Et le plus beau de l'histoire, c'est que les responsables ensuite de cette expo Bible ont fait un débriefing et se sont demandé, parmi eux, qui avait envoyé une jeune fille de 4 ans, en pleine rue, dans le centre-ville. Ils se sont consultés, personne d'entre eux. Alors ils ont conclu qu'en fait j'avais rencontré un ange, ce qui est tout à fait possible, parce que Dieu n'est pas limité. Et 3 mois plus tard, j'avais ma mutation pour Blaye, et un lien avec une autre église, l'église du Blayet, dont je vous ai assez souvent parlé. Voilà comment tout a commencé pour moi. Et je vous propose 2 exemples dans le livre des Actes. D'abord Corneille, l'officier romain, qui priait Dieu régulièrement et se montrait généreux envers les pauvres. Un jour, il a vu un ange. Cet ange lui a dit que Dieu avait reconnu ses gestes de générosité et ses prières, et il lui a demandé d'inviter chez lui Simon, autrement dit l'apôtre Pierre. Et c'est ce qu'il a fait. Mais suite au discours de Pierre, que vous pouvez retrouver dans Actes chapitre 10, toute la maisonnée s'est convertie. Un autre exemple, c'est Lydie, la marchande de pourpre, à Philippe. Elle se rend au bord d'une rivière pour prier avec un groupe de personnes. Et nous trouvons cette mention, acte 16, verset 14, cette information, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Pour elle aussi, tout a commencé là, parce qu'ensuite elle a été baptisée, et vous le savez, l'église de Philippe s'est ensuite réunie dans sa maison. Alors, pour conclure, ce que nous avons vu aujourd'hui, bon, Dieu se révèle aux êtres humains limités que nous sommes. Alors, nous avons vu la révélation générale dans la nature, l'histoire ou dans l'être humain. La révélation spéciale, c'est-à-dire la parole de Dieu, et le point culminant, Jésus-Christ. Et, pour terminer, la révélation très spéciale, ce qui est décisif chez moi pour me mettre en route. Alors, soyons clairs, nous ne savons pas tout sur Dieu, et jusqu'à la fin, ce que nous savons restera limité. Mais ce que nous savons est suffisant pour faire ce pas de foi décisif et pour mieux connaître ce Dieu. Jean nous dit que tout n'a pas été écrit, mais il précise ensuite « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Autrement dit, trois formes de révélation pour un beau projet de vie. Amen.